Bien. Alors, ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'éclairer la dimension dynamique de l'étude dès lors que l'on travaille selon, comment dire, les directions d'une démarche d'investigation. Effectivement, on a parlé précédemment de situation, on a parlé d'organisation didactique, on a parlé d'une étude et des contraintes, je dirais, chronologiques ou temporelles de l'étude, mais je vais essayer aujourd'hui de développer la dynamique de la démarche. Alors, je vais utiliser à la fois un texte fondateur de la didactique des mathématiques françaises que je vais. Alors vous m'excuserez peut-être de la prudence et puis de certaines précautions que je vais prendre parce que ce que je vais dire, c'est une interprétation. Je vais revisiter le cas de Gaël. Alors le cas de Gaël, vous pourrez le trouver sur le site de Guy Brousseau. Et comment dire, si vous ne l'avez pas, je l'ai évoqué dans ma présentation hier. On le déposera sur les ressources. C'est un pardon? Non, je suis pas en train de... On le déposera sur. Alors, Yves m'a parlé d'une plateforme, quelque chose comme ça.
Oui, on en parlera.
D'accord. On le déposera. Si vous le voulez, je l'ai à disposition. Enfin, je l'ai disponible sur mon disque dur. C'est un texte qui était relativement long, parce qu'il fait plus de 30 pages. Et donc, comme on sait pertinemment qu'on n'a pas toujours le temps de lire ces textes-là, je vais en prendre des extraits, je vais les interpréter du point de vue de la démarche d'investigation. Enfin, de mon exposé, j'érigerai trois principes pour constituer une dynamique. Alors, le cas de Gaël, je le prends parce que c'est un cas exemplaire. Il est relativement simple d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire les contenus mathématiques ne sont pas très difficiles puisque c'est l'apprentissage de la soustraction au CE1, donc ça va. Quoique, on pourrait s'amuser un petit peu sur ces choses-là. Mais au-delà du cas de Gaël, il y a des éléments importants, et puis je vais éclairer notre collègue hier à trébucher sur un néologisme que j'avais tenté. Et comme j'ai vu que finalement, comment dire, ça causait un petit peu de soucis d'expression, je me suis dit, tiens, on en parlait avec Yves. Quelquefois, c'est bien d'avoir, comment dire, des déroulés où on bute parce qu'on voit les difficultés qui apparaissent. Et puis, quand c'est trop didactifié, on ne voit pas les difficultés. Et puis, ça coule tout seul. Et puis, quand on a la chance d'avoir des choses comme ça. Donc, je vais le reprendre. C'était le terme didactification. Je vais tenter de l'éclairer avec l'exemple du cas de Gaël. Alors, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs. Cette histoire du cas de Gaël, parce que ça a quand même assez diffusé, en tout cas pour ceux qui ont une formation récente, enfin pas trop éloignée dans les UFM, voire ou qui organisent la formation dans les ESPE, dans les stages. J'espère bien que vous en avez au moins entendu parler. Pour les autres, eh ben, aujourd'hui, vous en entendrez parler par ma voix. Alors. Voilà la situation de départ. Alors Gaël, c'est un élève qui est en difficulté en mathématiques. Qui est en difficulté en mathématiques. Et Guy Brousseau, dans les multiples activités, il travaillait auprès d'une. Enfin, il intervenait avec des orthophonistes. Et il a encadré d'ailleurs plusieurs mémoires de formation. En orthophonie. Et puis, on le met on le met face à un élève qui a des difficultés en mathématiques. Et Guy Brousseau va travailler pendant un certain temps. Alors, le texte dit que ce n'est pas Guy Brousseau, mais ça lui ressemble tellement qu'on va oser dire que c'est Guy Brousseau. Alors, voilà ce qui se passe. Au départ, une situation, les épreuves... Alors, je désigne cette situation de départ, les voitures rouges et les épreuves opératoires. Quantification de l'inclusion, test de la commutativité. Alors... Au début d'une première séance, l'intervenant pose à Gaël la question suivante. Sais-tu qu'est-ce que tu n'as pas bien réussi cette semaine et qu'est-ce que tu as bien su faire? Et à cette réponse, l'intervenant n'obtient que des réponses, à cette question, il n'obtient que des réponses évasives. Alors l'enfant prend son cahier et puis tous les deux, ils examinent les travaux de la semaine. Et dans cet examen, il ressort qu'ils choisissent finalement un problème dans lequel Gaël a été tenu en échec et dont l'énoncé est le suivant. Dans un parking, il y a 57 voitures, 24 de ces voitures sont rouges. Trouve le nombre de voitures du parking qui ne sont pas rouges. Alors l'énoncé n'est pas si simple que ça, hein, déjà, mais bon, on est au début de ce CE1, bon, c'est pas... Mais en même temps, ils reprennent et Gaël s'engage en disant la chose suivante, « Je vais faire comme j'ai appris avec la maîtresse. » Bien. Alors, pour s'engager dans cette résolution, comme il fait avec la maîtresse, il engage un certain nombre de d'essais et puis il survient une série d'échecs. Alors, parmi les techniques dont l'élève s'empare, il commence par utiliser l'addition et il fait 57 plus 84. Je prends des éléments du texte, hein. Donc je vais développer un petit peu cela. Et après quelques échanges qui montrent que Gaël n'a pas en fait une représentation correcte de la situation, hein, ce qui est démontré par son essai par l'addition, l'intervenant lui demande de dessiner les voitures qui sont dans le parking. Alors certaines dans ce travail-là, certaines réponses ou remarques de Gaël peuvent faire penser, a priori, qu'il ne maîtrise pas l'inclusion. Alors ainsi, après qu'il a dessiné les 57 voitures, il répond de la manière suivante à une question de l'intervenant. Alors l'intervenant lui demande « Est-ce que toutes les voitures dont on parle sont dans ce parking ?» Et Gaël répond « Non ». Il y a aussi des voitures rouges. Et voici ce que l'intervenant constate, c'est consigné dans le texte. On observe ici les difficultés de Gaël à envisager qu'il n'y a qu'un ensemble de voitures avec deux propriétés. Être dans le parking et être rouge. Pour la deuxième propriété... Eh bien, la deuxième propriété nécessite un deuxième ensemble. Et s'il admet que le deuxième ensemble possède aussi la première propriété, il ne conçoit pas encore qu'il soit une partie de l'ensemble de départ. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas analysé l'énoncé? Ou est-ce qu'il ne peut pas utiliser l'opération d'inclusion? Première hypothèse que pose l'intervenant. Alors l'intervenant, dans le texte qui est relaté, demande alors à Gaël de colorier ou de peindre en rouge les 24 voitures sur son schéma. Et lorsque Gaël cherche la réponse, il obtient alors 31, puis 33. Et lorsque l'intervenant lui demande comment faire pour savoir quelle est la bonne réponse, Gaël dit « Je ne sais pas ». Il ne pense pas à utiliser une opération pour décider. Alors, en continuant à travailler avec Gaël sur deux situations voisines, l'une l'addition et l'autre de soustraction, l'intervenant constate que Gaël traite de nouveau la situation de soustraction en faisant une addition. Et pour enquêter, pour se persuader que le problème rencontré par Gaël n'est pas lié à des causes dans le texte on dit psychogénétique, c'est le poids des années piagétiennes. Alors l'intervenant fait passer à Gaël deux épreuves de type piagétien. La première, c'est la quantification de l'inclusion. Dans cette épreuve, on présente à un enfant 8 perles en bois dont 5 sont rouges et 3 vertes. On lui demande de juger s'il y a plus de perles rouges ou de perles en bois et de justifier sa réponse. Et la seconde, c'est le test de commutativité. Dans ce test, ça consiste à reconnaître tout d'abord que deux réglettes A et B mises bout à bout ont la même mesure qu'une réglette C superposée, puis à reconnaître que si l'on permute, c'est invariant. Alors, Gaël réussit parfaitement les deux épreuves. Donc on peut s'assurer, finalement, que l'aspect décisif dans la compréhension des conduites de Gaël réside en ceci. Lorsque l'intervenant met en doute son jugement, même s'il est tout à fait correct, alors Gaël revient très facilement sur ses affirmations. Ça n'a rien de... Enfin, en tout cas, on le constate de façon très courante, ça n'a rien de... Surtout si on est prof, d'ailleurs. Tu en es sûr ? Bon. Alors voilà ce que Brousseau exprime dans le cas de Gaël. Il dit tout simplement, il semblerait que sans doute, et ça c'est important, l'adjectif, sa soudaine absence de conviction à partir d'une simple contre-proposition renvoie à son attitude générale vis-à-vis d'autrui lorsque sa propre connaissance est mise en jeu. Le sentiment de nécessité qui, pour Piaget, est le révélateur du fonctionnement d'une structure opératoire, le sentiment de nécessité, disparaît sans qu'on puisse incriminer une fragilité des constructions logiques de cet enfant. Mais l'hypothèse qui va être portée, c'est que cette fragilité renvoie directement à la manière d'être avec autrui dans une relation didactique. Et voici ce que énonce Brousseau. Gaël n'a, avec la connaissance, du moins dans une situation de classe, qu'un rapport superficiel. L'évitement du problème et la mise à distance débouchent sur des actions stéréotypées, purement didactiques, c'est-à-dire centrées sur le rapport avec l'enseignant, sans mobilisation des schèmes assimilateurs qu'il a pourtant à sa disposition. On pourrait le décrire autrement, sans mobilisation des techniques disponible par rapport aux tâches qu'il a à réaliser et qu'il est capable de mettre en œuvre, visiblement, puisqu'il ne rencontre pas de difficultés. Gaël s'accommode de relations institutionnalisées qui font appel de sa part à des rites qui ne l'engagent pas dans l'étude. Et toute l'attitude de Gaël au cours de cette première séance est la conséquence d'un accord entre la situation didactique habituelle de la classe, telle qu'il la perçoit, et son rapport défensif à la connaissance. Voilà le premier constat à la suite de cette première séance. Séance 2. Les pièces dans le sac, la situation du pari. Dans ce que nous avions dans le groupe primaire et puis à différents moments, j'ai indiqué que dans la démarche d'investigation, sous le terme de rebondissement, il y avait, soit à l'initiative du professeur, soit contenu dans la situation, une relance de l'enquête, de l'investigation qui est portée par la situation, et que si la situation est bien fichue, finalement, le professeur va pouvoir l'activer sans apparaître trop didactique si les élèves ne font pas cette proposition. Alors voilà, dans cette situation-là, comment ça apparaît. L'ensemble des analyses que nous pouvons faire nous conduit à envisager le type d'intervention à partir du constat qui a été fait pour la seconde séquence. Il va s'agir essentiellement d'introduire une rupture dans les conceptions que Gaël se fait d'une situation didactique. J'ai indiqué hier, et nous avons tous indiqué hier, qu'il y avait, dans la démarche d'investigation, une nouvelle forme scolaire, une nouvelle forme de l'étude. Et ici, on évoque déjà, à la fin des années 70, les conditions d'une rupture dans les conceptions qu'un étudiant se fait d'une situation didactique, c'est-à-dire d'une situation qui a été organisée pour provoquer intentionnellement la construction d'une connaissance. Et donc, en lui proposant une situation qui va exiger de lui des anticipations, des prévisions, des prises de responsabilité, c'est-à-dire un investissement effectif de l'objet de la connaissance. Pour cela, sur le même sujet mathématique, nous allons lui proposer ce que dans la théorie des situations, on appelle une situation d'action. Et c'est seulement s'il s'avérait que Gaël ne peut pas entrer dans ce type de rapport à la connaissance, eh bien, que nous chercherions d'autres voies, nous dit Guy Brousseau. La situation dont parle Brousseau est la situation du sac, et que vous trouverez dans l'article « Le jeu de la devinette ». Alors, c'est très simple. Le matériel est constitué de ronds et de triangles de petite et de grande taille. Le jeu consiste par exemple à compter toutes les pièces rondes, 19, et à trouver combien il y a de pièces dans le sac qui ne contient maintenant que des triangles, sachant qu'il y en a en tout 52 pièces. Si on met des blanches et des noires, sans savoir combien il y a de blanches et de noires, on pourrait ici trouver aisément une situation fondamentale de la statistique. Voilà, enfin, c'est une petite aparté que je fais comme ça pour nos collègues qui sont intéressés à cette question-là. Alors, pour amener Gaël à bâtir un autre rapport à l'activité intellectuelle, parce que c'est ça qui est en jeu dans la démarche d'investigation, un rapport à l'activité intellectuelle. L'intervenant institue le pari, c'est-à-dire qu'avant de fournir une réponse, Gaël doit parier avec l'intervenant. S'il n'est pas sûr de lui, il peut vérifier d'une manière ou d'une autre. La manière dont cette vérification va se produire constitue, bien sûr, l'enjeu de la situation. Si je parie, qu'est-ce que c'est que le pari? Mais qu'est-ce qui s'engage ici? C'est un rapport intellectuel, et donc engager Gaël dans un pari de mathématicien, c'est-à-dire parier comme le ferait un mathématicien, c'est-à-dire convoquer une connaissance mathématique qui ferait qu'on serait pour le coup sûr dans son pari. C'est un gros problème en maths, hein, la relation à la certitude. On a eu un débat intéressant hier sur conjecture et hypothèse pour la construction de la certitude. Bon, bref. Alors, la séance va se dérouler témoignant des multiples difficultés de Gaël, notamment en particulier des difficultés de mémoire, liées d'une part à sa perception du nombre, et à son appréhension de la numération. Et c'est donc bien un rapport à la connaissance qui est en cause ici, et qui atteste d'une part d'un oubli de certaines manières de faire, pourtant pertinentes. Mais peu à peu, pari après pari, Gaël avance, et puis il parvient à accepter et utiliser l'addition comme un moyen a priori de vérification. Cette situation constitue le point de départ de la situation fondamentale pour la soustraction qu'on va trouver chez Brousseau et que nos collègues du primaire travailleront dans le groupe cet après-midi. Continuation du jeu de la devinette, séance 3. Gaël est donc capable d'entrer dans toutes les phases de la dialectique de l'action et de produire et d'éprouver des modèles implicites. Bah oui, le modèle additif derrière la soustraction. Même si, comme on le verra après, c'est avec une efficacité encore assez faible. Et on va pouvoir comprendre pourquoi. Il est probable qu'il accomplit naturellement cette activité, ce qui explique le développement normal qu'on observe chez lui. Ses attitudes stéréotypes que l'on constate en classe et sa tendance à chercher toujours des solutions faciles dans l'interprétation des suggestions de l'adulte sont donc un effet de sa manière, enfin de la manière dont il utilise la situation didactique. Il faut donc étudier les moyens d'engager Gaël dans cette voie et lui donner le goût et les moyens d'assurer son apprentissage. Notre collègue a parlé de ZEP hier. Cette relation de confiance existe dans toutes les situations didactiques, hein. Mais en tout cas, empiriquement, dans les classes de ZEP que j'ai fréquentées, et en parlant avec beaucoup de collègues qui exercent, cette relation à la confiance du professeur vers la connaissance est centrale. Alors, il reste aussi beaucoup à faire pour lui permettre d'acquérir la maîtrise des situations de soustraction et leur donner du sens. Alors, à la fin de la séance 2, dans le texte, il y a une longue analyse de Brousseau et dans laquelle, je vais venir là-dessus maintenant, il révoque en doute la didactification qu'on pourrait être tenté d'opérer face au premier progrès accompli par Gaël. Dans la démarche d'investigation, quand une situation marche bien, il y a une tendance naturelle du prof à didactiser la relation de façon précoce, sans s'assurer a priori qu'il n'y a pas ce que met en évidence Gaël, c'est-à-dire une relation particulière à la relation didactique et non pas à la relation avec l'objet de la connaissance. C'est le piège le plus important dans la démarche d'investigation. Parce qu'on le voit que c'est une belle question. On a l'impression qu'ils sont dedans. Ça y est, ça va. On a une tendance à vouloir accélérer le temps didactique. Mais vous le sentez bien, vous, dans vos classes, quand vous avez l'impression que ça ronronne bien, etc. Et puis, bon, ça y est, allez, on y va. Et puis, on est pressé par le temps. Et ben, c'est un piège dans lequel on peut tomber. En tout cas, c'est une dimension... Alors, moi, je l'ai appelé didactification précoce, mais ça veut dire, comme on édifie, édification, comme on rédige, rédaction, et quand on investit, investigation, quand on didactifie, eh ben, j'ai appelé ça didactification. C'est le terme, mais qui est... Mais sur le truc rouge, tu sais le faire. Merci. Alors l'enseignant se poursuit donc dans la continuité de la séance avec de nouvelles occurrences de la même situation et de nouveaux paris. Et à la fin de la séance, ayant constaté chez Gaël des difficultés persistantes relatives au passage de la dizaine, l'intervenant institue le jeu du compte à rebours, c'est-à-dire il sort des pièces du sac qui en compte 56, une par une, et lorsqu'il dit « top », Gaël doit dire combien il reste de pièces dans le sac. Et Gaël parvient peu à peu, même lorsque l'intervenant enlève les pièces dizaine par dizaine, peu à peu, il parvient à maîtriser davantage ce dans quoi il était engagé, et la séquence se termine avec succès. Continuation du jeu des devinettes, le compte à rebours contre la didactification possible. Alors ici, Gaël, on a les unités, ça va, on a les dizaines, ça va, et puis on pourrait, par ostension ou par monstration de la connaissance, enseigner à Gaël les éléments qui lui manquent. Faire un schéma, identifier dans une situation le schéma convenable, concrétiser la soustraction par la répétition de manipulations et l'association d'un discours approprié, j'enlève, je retranche, etc. Et voilà ce que dit Brousseau, nous cherchons au contraire à lui faire construire et apprendre une théorie en suivant un processus différent, historique, celui-là, c'est-à-dire des connaissances liées au contexte dans lequel elles ont été construites, pourrait-on dire, dans lesquelles la rencontre avec la problématicité de la situation est ancré fortement et, je dirais même, pas corrélé, mais dépendante. Quatrième séance. Le jeu des estimations, le jeu du menteur, le jeu des étiquettes. Alors, une autre méthode classique consisterait à exploiter la situation d'action, telle qu'on l'a décrit précédemment, qui ont été créées dans les séances 2 et 3, c'est-à-dire à pousser Gaël à prendre parti, à formuler des déclarations, à les affirmer, à les retirer dans une relation duelle avec l'adulte. L'intervenant tirant à chaque instant une morale des actions de Gaël en lui en faisant tirer, par exemple, il répéterait des situations de pari en insistant « Il faut être sûr, tu es certain. » Brousseau nous dit « Nous savons que cette méthode ne peut aboutir. » Pour ceux qui ont lu ou qui liront cet article, vous pouvez vous dire bah, « Tiens, comment il le sait ?» Pour Brousseau, cette quatrième séquence constitue le cœur de la séquence qui va faire basculer Gaël dans un nouveau rapport aux mathématiques. Ce nouveau rapport doit consister à changer le rapport de Gaël à l'incertitude. Et ce rapport à l'incertitude, c'est ce qui constitue la difficulté majeure de Gaël, parce qu'elle lui est difficile d'affronter cette incertitude. Et l'enjeu que nous avons à construire dans les démarches d'investigation, c'est justement d'engager un rapport à l'incertitude de façon raisonnable, c'est-à-dire armé de connaissances mathématiques, ce qui bascule, enfin qui renouvelle le rapport à l'utilité. On parle d'utilité, eh bien, c'est justement en mathématiques, on ne va pas parler d'utilité comme ailleurs, on va le construire dans un rapport à l'incertitude, justement, un rapport raisonnable. On voit bien le danger, hein. Écoutez notre journaliste, 5% par an. Bon, bref. On voit bien quel danger ça peut recouvrir. Enfin, les banquiers, ils aiment bien, comme malgré tout, qu'on laisse entretenir ce genre de truc. Quelles pourraient être alors les situations susceptibles de favoriser un tel changement ? Mon interprétation du texte. Brousseau continue à refuser la didactification dans la continuité des réflexions produites en fin de situation précédente. Nous allons revenir sur le jeu auquel l'intervenant doit se livrer afin de faire multiplier et varier les positions de Gaël à propos de la certitude et de l'incertitude. Mais déjà, si on reprend le jeu des paris, on pourrait peut-être échapper à la récupération à laquelle nous avons fait allusion, didactification. Sans que ce soit exigé un changement d'attitude de l'intervenant en multipliant les paris et le nombre de données en présence. C'est ce qu'on fait couramment, hein. Ça marche bien dans un exercice. Vous variez un petit peu à chaque fois et alors vous allez construire un renforcement de la technique, de la technique sollicitée. C'est une des façons de didactiser et pour le coup d'institutionnaliser. De cette façon, même si Gaël prend quelques calculs comme occasion de s'évader de l'exigence d'exactitude, on peut parier qu'il ne les fera pas tous faux pour peu que ses connaissances lui permettent. Alors Brousseau va tout d'abord complexifier la situation du pari, c'est-à-dire on veut éviter le confort de la certitude. Et pour éviter le confort de la certitude, on va commencer par l'affaiblir, cette certitude. Et alors, la séance va commencer par le jeu des estimations qui consiste à faire chercher à Gaël non pas un résultat, mais quatre résultats, variables de la situation possible. L'intervenant va enlever des pièces de quatre couleurs différentes. Et Gaël devra retrouver combien il reste de pièces jaunes, vertes, bleues, rouges dans le sac. Cette complexification rend nécessaire un système de représentation, par exemple, un tableau qui va prendre en compte l'ensemble du processus qui est apporté par l'intervenant. Et qu'est-ce que remarque Brousseau ? À mesure que le nombre des interventions didactiques de sa part augmente, et ben Gaël passe progressivement de son attitude vivante et souriante à une autre, plus sérieuse, plus concentrée. Consciencieusement, il se met à la tâche, appliqué mais toujours gentil et même amical avec l'intervenant. Il entre dans sa position d'élève qui apprend sous la houlette de son maître. Il est temps alors de rompre ce contrat confortable et dangereux pour Gaël et d'échanger les positions de l'intervenant et de l'élève. Et comment rompre ce contrat confortable et dangereux pour Gaël ? Parce qu'il constitue un renforcement de sa position vis-à-vis de la relation didactique. Et c'est ainsi que survient le jeu du menteur, qui constitue un tournant radical dans la séquence, dans l'ensemble de la séquence, et dans la séance. L'intervenant et Gaël renouvellent le jeu, mais cette fois-ci, l'intervenant qui retire les objets du sac inclut un nouvel élément de la règle, on joue au menteur. Bah, Gaël, il ne sait pas ce que c'est que jouer au menteur. Et l'intervenant explique, je vais retirer des objets. Quand j'aurai fini, je dirai, il y a tant de vert, tant de bleu, etc. Dans le sac. Si je me trompe, tu me diras, menteur. Si j'arrive à mentir, je gagne. Mais si tu as réussi à m'attraper, et que je mens, tu gagnes. Gaël, l'intervenant, joue au jeu du menteur qui renouvelle le jeu des estimations. C'est un rebondissement, en quelque sorte. Mais il continue l'investissement du tableau préalablement introduit, c'est-à-dire un moyen intellectuel de représentation de l'ensemble de la situation. Alors ce dernier jeu de la séance effectue un pas de plus dans le processus de symbolisation, c'est-à-dire, comme dans la démarche d'investigation en mathématiques, la production de milieux sémiotiques. Des groupes d'objets sont figurés par des papiers. On est en élémentaire. Hein. L'intervenant va mettre dans le sac un des papiers qui représenteront les objets que Gaël mettra dans l'autre sac. Par exemple, il écrit 6 vers sur un papier et Gaël met 6 objets dans le sac. On reconstitue un rapport au nombre dans sa fonction avec Gaël par cette façon-là. Le jeu est structuré de la même façon que le jeu précédent, mais à partir de 2 exemples différents, un ensemble d'objets et un ensemble d'étiquettes qui représentent les objets. Et Gaël peut ainsi vérifier les paris sur le système. Où est-ce que j'en suis ? Voilà. L'action problématique et le savoir. Alors, je n'ai pas pris tous les éléments du cas de Gaël, mais je voudrais maintenant focaliser sur l'action problématique et le savoir. Ce que montre, de mon point de vue, ce n'est pas dit explicitement dans le texte, l'enquête de Brousseau, ce que montre donc cette enquête, ce ne sont pas des difficultés liées aux schèmes opératoires de l'inclusion. Brousseau fait l'hypothèse que l'incompréhension de Gaël vient avant tout de sa manière d'être avec autrui, ou plus précisément de sa manière d'être avec autrui en situation didactique. C'est une redite de ce que j'ai dit au début de mon exposé. Gaël a construit à la situation didactique un rapport de défiance qui se traduit par le non-engagement, cet engagement dans une nouvelle relation de nature intellectuelle, c'est-à-dire le rôle de l'intellectuel dans la relation didactique, c'est ce qui fait problème, l'engagement de l'élève. Gaël n'assume pas la dévolution par le fait qu'il refuse le travail effectif dans le milieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie agir sur le didactique par le didactique? C'est chercher, autrement dit, ça veut dire le problème, c'est une question didactique. C'est chercher dans l'échec de Gaël, non pas dans la personne, ni même dans la situation. C'est le rapport entre l'individu et la situation. Nous avons eu depuis 2 jours, et c'est ce que j'ai ressenti, donc vous me direz peut-être dans nos échanges, une focalisation de mon point de vue exagérée sur la nécessité de la situation géniale qui va engager les gamins dans la démarche d'investigation. Et si vous m'entendez penser, même si on est un petit peu éloigné, nous aimerions vous indiquer que toutes les situations dans lesquelles vous travaillez seraient susceptibles, pour peu que l'on s'intéresse de façon très pointue, dans le rapport de l'individu à la situation, et non pas dans la situation absolument géniale qui va tout faire. Et c'est pour ça notamment qu'on essaye de vous sensibiliser, à vous mobiliser sur les instruments qui vont permettre d'organiser un rapport idoine dans cette démarche. Toute la première séance montre en fait comment Gaël est porté par un habitus didactique qui s'active avec le contrat didactique classique. Course à la solution. Validité ou validation magistrale. C'est bien connu. Tous les problèmes mathématiques ont des solutions. Ah bon ? Mais c'est ce qui fait avancer la connaissance mathématique, c'est que personne n'arrive à résoudre certains problèmes. C'est donc que tous les problèmes mathématiques n'ont pas de solution. Et c'est une fiction de faire comprendre dans le rapport aux mathématiques qu'ont les élèves que dès lors qu'il y a un problème mathématique, nécessairement, il y a toujours une solution, bien sûr. L'apprentissage interstitiel, l'apprentissage pour beaucoup d'élèves, ne se fait pas dans la prise de décision suivie de l'observation des effets de cette décision, mais plutôt des effets sur le prof. Alors voilà ce que je vous propose à l'issue de ce petit exposé sur Gaël, très incomplet, il faudrait beaucoup de temps, tant l'épaisseur de ce texte est absolument fondamentale. Quelle situation adidactique pour la production collective du savoir ? Alors, situation adidactique, ça veut dire dans laquelle la présentation du savoir n'est pas explicite. Alors, je vous propose trois principes. Premièrement, et ça, je vous l'ai montré pour le... dans le cas de l'école primaire, mais je vous le soumets, chers collègues, de façon tout à fait générale. Premièrement, la situation donne aux élèves le moyen d'évaluer l'échec ou la réussite de l'action demandée. Or, l'action appartient aux élèves que si le prof n'est pas le garant du jugement sur sa réussite ou son échec. Les conditions de l'action demandée aux élèves doivent donc comporter un moyen sûr d'en évaluer le succès et donc, à contrario, l'échec. Cette condition normale dans une situation non didactique est rarement satisfaite pour une situation didactique ordinaire. Deuxième principe. Les élèves peuvent recommencer l'action en cas d'échec. C'est une évidence, mais est-ce réellement réalisé ? Or, recommencer l'action, c'est d'abord et avant tout vérifier que l'échec n'est pas l'effet d'un malheureux hasard, le rapport à la certitude et à l'incertitude dont je parlais précédemment. Et c'est ensuite explorer les possibilités d'évolution d'une stratégie manifestement inefficace. Il ne s'agit donc pas de recommencer une fois ou deux seulement. Ces deux conditions sont draconiennes, mais si elles sont réalisées, elles sont efficaces. La connaissance est ici une manière de faire, au mieux, une technique naturelle. Troisième principe. Les élèves ont à formuler leur stratégie. Vous vous rappelez ? Dans la relation de Gaël à l'intervenant. Cette formulation doit être organisée comme un type d'action à part entière. Elle doit donc satisfaire aux critères, aux deux premiers principes que je viens d'énoncer précédemment. ça veut dire que la formulation va faire l'objet d'une situation en elle-même. On est très loin de ce que l'on peut appeler en primaire la mise en commun ou la recension de chaque proposition. Les formulations, les propositions doivent-elles elles-mêmes prises en compte comme des situations, comme une situation dans laquelle elles vont faire l'objet d'une étude. La validité opératoire d'une formulation, par exemple comme message, permet de juger de la réussite de la formulation. Au même titre que la stratégie, la formulation doit faire l'objet et doit être considérée comme une situation à part entière, selon les deux principes que je viens d'énoncer précédemment. Et la connaissance, pour faire le lien avec ce que va dire Yves, la connaissance est alors, est ici, un discours sur la technique. Elle prend donc une dimension technologique. Je vous remercie.
Je suis arrivée un peu en retard, donc est-ce que vous avez des questions suite à ce premier exposé?
Eh bien, non.
On n'entend pas? La journée va être dense, oui. Non, mais les précédentes l'étaient aussi, non? Donc, pas de questions pour l'instant? Oui.
Bonjour. Est-ce que vous...
Bonjour.
Vous pouvez nous raconter sur des expériences concrètes qui satisfont les trois principes.
C'est-à-dire des
créations de rapports ou de situations de démarches d'investigation,
oui.
Où on satisfait les trois principes que les élèves ont. Moyen d'évaluer l'échec ou la réussite sans oui. L'aide du prof, etc.
Oui, des exemples concrets, ça va être l'objet du TD que je vais animer cet après-midi, mais par rapport au travail sur les PER qui sont travaillés, qui sont développés. Dans le groupe de l'IREM de Marseille et puis dans d'autres, je crois. Je pense qu'il faut... je pense que ces contenus et de considérer... de laisser... Alors, on est bien d'accord, hein, c'est pas non prévu, ça doit être pensé et organisé. L'échec et la réussite, c'est-à-dire le rapport à la certitude, ça doit faire l'objet vraiment d'une attention particulière parce qu'on voit bien, c'est assez exemplaire dans le cas de Gaël. Il y a par exemple, et plus on va monter, si j'ose dire, dans la complexité des connaissances mathématiques, le rapport au symbolique et ce qu'il permet de faire, on voit bien que ce travail, il est très très peu engagé dans la forme de l'étude standard et que dans le parcours, il est organisé, il est présent. Ça, on pourra le montrer. Je pense que Farida et Karine, on a discuté un peu de ça, on pourra vous montrer des épisodes dans lesquels l'échec et la réussite des propositions est clairement suffisamment exploré par les élèves pour pouvoir s'autoriser justement à formuler un certain nombre de propositions. Oui, ça existe. Je pense que sur les relatifs, il doit y avoir quelque chose là-dessus.
On va vous montrer tout à l'heure après dans la séquence sur l'organisation didactique, quelques extraits vidéo où on va vous signifier un peu ce qui peut se repasser en reformulation ou en validation faite par les élèves et puis en recherche de preuves à ce moment-là. Donc vous aurez des exemples un peu plus concrets là dans une petite heure.
Pour moi, d'expérience, hein, simplement, c'est pas tant le premier principe qui est difficile à coller, c'est le second. C'est-à-dire faire en sorte que les formulations soient vraiment une situation qui fasse l'objet d'une étude comme si c'était des actions. Et ça, c'est un petit peu, de mon point de vue, la grande difficulté à organiser. Il faut regarder de près parce qu'il y a des questions de forme, de quelle forme doit prendre ce travail d'exploration, d'échec ou de réussite, des formulations, des propositions des élèves. Comme si c'était évident, par exemple, il y a un problème de lexique qui est très important. Farida parlait, par exemple, et ça, ce sont des gestes d'enseignement qu'il faut apprendre sans doute qu'il faut vraiment bien maîtriser. Dès lors que l'on, en primaire, on arrive quand même à donner des mots aux choses de façon assez métaphorique. Dès lors que l'on va monter dans les connaissances mathématiques, l'introduction du mot, par exemple, tu parlais de point homologue ou de choses comme ça, c'est assez délicat à mener parce que pour avoir une théorie de la chose et l'exprimer, il faut avoir le lexique pour le produire. Et ça, c'est assez difficile. De mon point de vue, le deuxième principe est le plus délicat à mener parce qu'il va devenir chronophage. C'est-à-dire constituer les différentes formulations comme les objets qui vont être étudiés au même titre que les actions que l'on avait à produire. Mais si on réussit cette phase-là, on a de grandes chances, premièrement, de construire un rapport intellectuel à la certitude qui ne repose pas uniquement sur des actions. Le problème, il est là. C'est-à-dire que construire un rapport à la certitude reposant uniquement sur des actions en complètement squeezant le fait que c'est pas l'action, c'est le modèle de l'action qui nous intéresse et comment il s'exprime. Mais pouvoir exprimer le modèle de l'action, il faut le mettre à l'épreuve. Il faut le construire comme un objet qui va faire l'objet de l'étude. Ça aussi, on est en train de regarder. Enfin, il est contenu dans les différentes ressources, mais j'attire votre attention vraiment sur le fait qu'il y a des tas de situations qui sont pratiquées ordinairement, qu'on pourrait très aisément et économiquement, aménager, modifier, pour tendre vers ces trois principes de façon assez économique. Le problème, ça va être le contrôle et organiser le contrôle que vous avez de ça, parce que ça se joue une fois dans une année scolaire. Nous, on a la chance, dans les dispositifs, de pouvoir l'expérimenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, et d'avoir un relevé d'expérience de ces choses-là. Ce qui est difficile dans ce type de démarche, c'est que nous, quand on le fait en classe, on le fait une fois. On ne peut pas refaire trois fois la présentation des bateaux. Un coup, tu enlèves un axe, et puis l'autre, tu enlèves le deuxième axe.
Donc, voilà, pour rebondir, parce que on vous a proposé hier un parcours autour de la symétrie centrale et on vous a montré quand même que l'activité existait dans des manuels tels quels et que ce qui s'était joué, c'était un peu sur comment la faire vivre en classe en tant que démarche d'investigation. C'est-à-dire que on va vous montrer tout à l'heure aussi avec Karine une autre activité d'étude et de recherche où on a trouvé la trame dans un document ressources. Documents ressources publiés par ADGESCO. Donc la situation elle-même, on a beaucoup de parfaitement exploitable dans les manuels, dans les documents ressources, sans avoir besoin d'en créer des situations extraordinaires. Après, ce qui va se jouer, comme le disait Serge, ça va être dans le déroulement effectif et dans la prise en main en classe et ce qu'on fait vivre au niveau des élèves et de la dévolution réelle et comment on va... Nous, on ne dit pas tout à fait formulation-action par rapport à la TAD, mais c'est une question de vocabulaire. On va parler de nos questions cruciales, de nos questions génératrices. On est on est dans la même dynamique, qui vont nous permettre de permettre et la dévolution et la résolution par les élèves du problème qui a été posé pour construire un objet mathématique et pour construire des connaissances et donc du savoir. Je précise.
Au niveau de... Vous avez parlé de lexique et des vocations et de choses comme ça, mais qu'est-ce qui est préalable? C'est la situation, le lexique utile pour expliciter ce qu'on a fait. Par quoi on commence?
Hier, on vous a fait travailler un peu sur l'organisation mathématique et on a vu tous que c'était un exercice pas si évident que ça, hein, pour les groupes. Donc ce qui prévaut, c'est quand même le savoir enseigné. Donc après, dans le déroulement réel, le savoir, il faut, pour qu'il sorte de la classe en tant que savoir réel et universel, puisqu'on en a déjà parlé, il va falloir un lexique commun qui est extérieur. Mais pendant la construction du savoir, on peut avoir un lexique spécifique au groupe de travail et il va falloir se mettre d'accord à un moment pour le sortir de la classe. Donc il y a les deux qui existent. Il y aura des choses dans l'élaboration des objets mathématiques qu'on devra oublier après coup. Mais pour l'instant, ils peuvent prévaloir dans la classe jusqu'au moment où on institue le savoir comme savoir universel officiel.
Un des signes du fait qu'on a un rapport théorique à la chose que l'on regarde, c'est qu'on a les mots pour l'exprimer. C'est-à-dire, on parle de mots, on pourrait dire en maths qu'on dispose d'un système symbolique pour pouvoir entretenir une relation à l'objet et une relation qui n'est pas toujours de nature perceptive mais de nature intellectuelle. Donc engager le rapport intellectuel, c'est-à-dire un rapport théorique à l'objet, c'est disposer d'un moyen pour le désigner et on pourrait dire calculer avec, quoi. C'est-à-dire combiner. Et ça, la construction de ce rapport théorique à l'objet, eh bien, pour qu'il se construise de façon satisfaisante, non pas sur la forme de la relation, mais par un rapport intellectuel, raisonnable à l'objet, eh bien, je vous propose de suivre pour l'instant, avant qu'on dise que c'était pas bon parce que c'est incomplet à discuter. Bon, ces principes, en tout cas, qui me semblent déterminants. Ah bon ? Mais fais attention à « il faut ». Voilà. Soyons prudents.